Ils quittèrent la scène de crime à 23h53. Non pas qu'ils en aient fini avec elle, mais ils s'interrompaient provisoirement pour faire un point sur l'affaire au QG. On peut ouvrir une enquête collectivement, mais pour la mener à bien, il faut un responsable désigné, un enquêteur à clouer au pilori en cas d'échec. Didi fut l'heureuse élue. Ce n'était pas une grosse surprise, mais elle se sentit tout de même le devoir de prononcer un bref discours de remerciement. Au nom de toute mon équipe, c'est avec un grand plaisir que j'accepte cette marque de confiance. Quelques huées s'élevèrent au fond de la salle, quelques boulettes de papier volèrent. Didi ramassa le projectile le plus proche et le retourna à l'envoyeur. Naturellement, nous ne doutons pas un instant d'avoir plié cette affaire d'ici demain matin. Nouveau sifflet et un petit malin firent remarquer qu'on était déjà demain matin. Didi prit une autre boulette et lui planta entre les yeux. Donc, vous pouvez tous retourner protéger nos chers concitoyens, conclut-elle dans un chahut grandissant. Celle-là, on s'en charge. Le commissaire divisionnaire leva les yeux au ciel lorsqu'elle se rassit, mais ne dit rien. La soirée avait été longue et la scène de crime éprouvante. Les enquêteurs avaient bien le droit de relâcher un peu la pression. « Va falloir faire une conférence de presse, » dit simplement le supérieur. « Première heure demain matin. »« Quelle ligne officielle ?»« Aucune idée. » Elle reprit son blouson sur le dossier de sa chaise et fit signe à son coéquipier, Phil, qu'il était temps d'y aller. « Demandez-moi quand on viendra de l'hôpital. » Lorsque Didi et Phil arrivèrent à l'hôpital, Patrick Harrington, autrefois père de 3 enfants, était sorti depuis 3 heures d'une intervention en neurochirurgie. D'après la surveillante du service, il n'était pas en état de parler. « Vous nous permettrez d'en juger », répliqua Didi alors que Phil et elle dégainaient leurs plaques. L'infirmière ne se laissa pas impressionner. « Ma belle, le patient est en coma artificiel et il a un manomètre relié au crâne pour mesurer la pression intracrânienne. » Vous pourriez bien avoir une lettre de recommandation signée par Dieu le Père. S'il ne peut pas encore parler, c'est qu'il ne peut pas parler. L'information coupa un peu ses effets à Didi. Quand est-ce qu'il reprendra connaissance, vous pensez? L'infirmière toisa Didi qui lui rendit l'appareil. Les hôpitaux respectent certaines procédures concernant le respect de la vie privée de leurs patients. À vrai dire, le législateur a même gribouillé un truc ou deux sur le sujet. Mais croyez-en un enquêteur, au bout du compte, le facteur humain prévaut toujours. Certaines surveillantes protègent leurs patients comme des pitbulls. D'autres sont prêtes à remettre les choses dans leur contexte, pourvu qu'on leur présente sous le bon angle. La surveillante prit un dossier, parcourut les annotations. « Si vous voulez mon avis d'infirmière, commença-t-elle, je n'en ai strictement aucune idée. »« Comment s'est déroulée l'opération ?» intervint Phil. L'infirmière lui lança un regard, remarqua la tache de ketchup sur son polo blanc et eut un petit sourire. Le chirurgien a retiré le corps étranger, ça devrait aider. Didi s'accouda au comptoir d'accueil. Maintenant que la posture de l'infirmière s'était quelque peu détendue, c'était le moment de pousser leur avantage. Elle jeta un coup d'œil à son badge. « Dites-moi, Terry, vous êtes au courant de ce que Patrick a fait à sa famille ?»« Un genre de scène de ménage ?» répondit Terry en les considérant avec sérieux. Peut-être qu'il n'aimait pas la cuisine de sa femme. Ça arrive trop souvent dans le coin, je trouve. Faudrait que les hommes apprennent à aimer le brûler. Ah, mais c'est allé un peu plus loin qu'une prise de bec avec madame. Il y avait des enfants dans le coup, 3. Il les a tous supprimés. L'infirmière hésita, manifesta la première lueur d'intérêt. Il a tué ses propres enfants ? 9, 12 et 14 ans, tous morts. Oh Seigneur. Nous pensons que c'est ce qui s'est passé, mais ce serait mieux d'en avoir la certitude. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait pareil si 4 personnes ont été tuées par un proche ou, disons, par un fou dangereux qui se promène peut-être toujours en liberté. Sérieusement, ce serait bien qu'on en ait le cœur net. Et vu que Patrick est le seul survivant... L'infirmière poussa un grand soupir, parut enfin se laisser fléchir. Écoutez, je ne peux pas réveiller un patient dans le coma, même pour les beaux yeux de la police. Mais je peux voir si le docteur Pour est encore dans les parages. C'est lui qui l'a mis aux urgences. Il aura peut-être des éléments. Parfait. Autant vous installer confortablement. Les médecins ne répondent qu'à Dieu, pas aux surveillantes. Alors ça pourrait prendre un moment. Je ne sais pas pourquoi, mais je parie que vous savez les faire accélérer. Si seulement, ma pauvre. Après être passé acheter un café à la cafétéria du sous-sol, Didi et Phil se mirent à leur aise. Les chaises de la salle d'attente étaient basses, le genre qu'il serait tentant de grouper trois par trois pour se faire un lit de fortune. Didi se concentra sur son café. Elle avait bien dormi la nuit précédente. Apparemment, ça ne se reproduirait pas de sitôt. Elle repensa un instant à Chip, éprouva un pincement de regret pour la nuit torride à côté de laquelle elle était encore passée, et revint à leur mouton. « Qu'as-tu pensé du professeur Alex ?» demanda-t-elle à Phil. « Ma nouvelle ombre, tu veux dire ? Il a l'air pas mal. Intelligent, ne se met pas dans nos pattes, parle surtout quand il a quelque chose d'utile à dire. Jusque-là, ça le place au-dessus de la moitié du service. » Didi sourit. « Tu t'es renseigné sur lui ?»« Je passerai quelques coups de fil demain matin. » »«
D'accord. »
Le silence retomba. Phil soufflait prudemment sur son café alors que Didi sirotait déjà le sien. « Et tes projets pour la soirée ?» demanda Phil. « Ne m'en parle pas. » « Au fait, » reprit-il tout sourire, « ce n'était pas ce soir le fameux rendez-vous avec l'ami de la femme de Charlie ?»« Je te le répète, ne t'engage pas sur ce terrain-là. » « Vous êtes d'abord allé dîner, hein ?»« Voyons, Didi, tu devrais savoir depuis toutes ces années, quand tu as une soirée de libre, pas de temps à perdre devant un bon petit dîner. » « Va droit au but avant que le beeper ne te retrouve. »« Quoi ? J'emmène un inconnu chez moi et je le saute comme une bête ? Hey, salut, la chambre est au fond du couloir. »« Crois-moi, les mecs ne s'en plaindront pas. »« Les hommes sont des porcs. »«
Exactement. »
Didi leva les yeux au ciel. « Betsy et toi, ça fait quoi, 90 ans que vous êtes mariés ? Qu'est-ce que tu connais aux relations amoureuses au XXIe siècle ?»«
Oh, j'ai les oreilles qui traînent. »
Un médecin, l'air soucieux, entra comme un ouragan par la double porte, épargnant de nouveaux sarcasmes à Didi. Ses cheveux se dressaient en touffes brunes, et il avait les deux mains enfoncées dans les poches de sa blouse blanche. « Messieurs, dames, les enquêteurs ?» les interpella-t-il. « Docteur Pour !» répondirent Didi et Phil en se levant. Il leur fit signe de venir, et ils s'engouffrèrent donc dans son sillage lorsqu'il traversa la salle d'attente à toute vitesse, franchit une autre double porte et parcourut un dédale de couloirs aseptisés. J'ai besoin d'un café. Vous en voulez encore ? Il n'est pas mauvais ici, pour un hôpital, s'entend. Nous avons tout ce qu'il nous faut, merci, répondit Didi. Phil et elle avaient toutes les peines du monde à suivre ses rapides enjambées. Voilà, docteur. Nous avons des questions sur un patient qui a été admis aux urgences en début de soirée, un certain Patrick Harrington. Quelle blessure ? Pourquoi a-t-il été admis ? Je m'intéresse pas au nom, seulement aux plaies. Oh, blessure à la tête par arme à feu de petit calibre. Le médecin hocha vigoureusement la tête, jeta un œil à droite, un œil à gauche et descendit au galop l'escalier qui menait à la cafétéria. Plaie par balle unique, tempe gauche, c'est ça ? Pas d'orifice de sortie, donc un 22 à vue de nez. La balle a champignonné à l'impact et perdu trop de vélocité pour ressortir par l'arrière du crâne. Vous savez, j'ai vu deux blessures par balle la semaine dernière, du 44. Ça vous explose le crâne en 1000 morceaux. Je crois que les dealers regardent un peu trop l'inspecteur Harry. Le docteur Pour fila droit au distributeur de café. Didi se dit qu'il n'en était sans doute pas à son premier. « C'est Harrington qui nous intéresse », le relança-t-elle. Le médecin acquiesça, versa de la crème épaisse et 4 sachets de sucre dans sa tasse, mélangea, trouva un couvercle. « D'accord, blessure par balle à la tête. Quand il a été admis, nous avons paré la plaie. » Examiner les atteintes du cuir chevelu et évaluer les lésions encéphaliques. Le patient n'avait que peu de réactions et un mauvais score sur l'échelle de Glasgow. J'ai demandé un scanner en urgence et adressé le patient en chirurgie pour extraction du projectile qui était logé dans la région postérieure du lobe frontal. Je crois que le neurochirurgien de garde était le docteur Badger ce soir. Il travaille bien, si ça peut vous aider. Quel pronostic ? Demanda Phil. Le docteur Pour eut un vague geste de la main. 3 dangers avec les lésions céphaliques. Premièrement, l'hémorragie. Deuxièmement, le trauma lui-même. Et troisièmement, l'œdème. Jusqu'ici, le patient a survécu à l'hémorragie et au trauma, mais l'œdème reste un sujet d'inquiétude, de même que le risque infectieux. Ou d'ailleurs de reprise de l'hémorragie. Il y a des limites à ce qu'un neurochirurgien, même le meilleur, peut faire pour réparer les dégâts que provoque une balle dans le cerveau. C'est comme de lancer un couteau à beurre dans un bol de gelée. La gelée n'a aucune chance. Quand reprendra-t-il conscience ? Demanda Didi. Aucune idée. Il faudrait que je consulte son dossier. J'imagine qu'on lui a donné de puissants sédatifs, ce qui vaut sans doute mieux. Mais nous avons des questions à lui poser, s'impatienta Didi. Le docteur la regarda avec étonnement. La moitié de son cerveau ressemble au canal de Panama. Que croyez-vous qu'il pourrait vous dire alors qu'il est ? Didi et Phil échangèrent un regard. Sans être très surprenante, les nouvelles étaient décevantes. Pourriez-vous décrire l'orifice d'entrée ? Demanda Phil. Didi se mordit la lèvre inférieure. Elle savait où Phil voulait en venir. Du point de vue des enquêteurs, il aurait été préférable que leur tireur présumé meure sur place. Auquel cas, les services du légiste auraient mis des sachets sur ses mains et préservé la plaie de contact sur la tempe gauche. Une fois à la morgue, le médecin légiste aurait cherché des résidus de poudre sur les mains du tireur et procédé à un examen médico-légal de l'orifice d'entrée. En moins de 24 heures, ils auraient eu la preuve scientifique que Patrick Harrington était mort d'une balle qu'il s'était tirée lui-même dans la tête. Qui plus est, les vêtements d'Harrington auraient été précieusement conservés et on y aurait recherché des éclaboussures de sang et autres indices liés à la tuerie. En deux temps trois mouvements, les taches de sang sur les vêtements du sujet A, correspondant aux blessures des victimes B, C, D et E, auraient démontré que Patrick Harrington avait poignardé toute sa famille avant de se suicider d'une balle en pleine tête. Affaire classée, dossier suivant. Au lieu de quoi, les secours avaient précipitamment emmené leur meurtrier présumé à l'hôpital, où ses vêtements ensanglantés avaient été découpés et jetés, où ses mains et ses plaies avaient été soigneusement lavées, où d'innombrables occasions de recueillir des indices avaient été sacrifiées pour tenter de sauver ce salopard. De sorte qu'ils en étaient réduits aux premières impressions de l'urgentiste sur l'individu et ses blessures. Didi aurait préféré avoir affaire au légiste. Le docteur Poor retira le couvercle de son café, souffla sur le breuvage sucré, parut fouiller dans sa mémoire. Faudrait que je relise les notes, mais l'orifice d'entrée mesurait plusieurs centimètres de diamètre et les berges étaient brûlées. Tire à bout touchant ? L'interrompit Phil. Ouais, je dirais un orifice d'entrée typique d'un tire à bout touchant. Phil prit des notes. Mais le médecin secoua la tête. Vous voulez savoir si le type s'est tiré une balle lui-même ? C'est votre idée, n'est-ce pas ? C'est ce que nous essayons de déterminer, répondit prudemment Phil. À voir le scanner, je dirais qu'il y a peu de chance. Comment ça ? Intervint Didi. Question de trajectoire. Réfléchissez un peu. L'orifice d'entrée se trouvait sur la tempe gauche et la balle s'est logée dans la région postérieure du lobe frontal gauche. Un trajet relativement rectiligne. Si vous essayez de reproduire ce tir... Le médecin posa son café, mima un pistolet avec sa main droite et essaya de plier suffisamment son poignet pour tirer à angle droit dans sa tempe gauche. Non pas que ce soit impossible, mais c'est mal commode. D'autant qu'il y a des chances que la personne soit en pleine poussée d'adrénaline, avec des endorphines qui se déversent dans tous les coins à cause du traumatisme, du stress, de l'appréhension. Quand c'est la victime elle-même qui a tiré, la plupart des plaies que nous voyons présentent une angulation. Peut-être qu'à la dernière seconde, la personne a un petit mouvement d'appréhension, qu'elle dévie légèrement le canon vers le bas ou sur le côté. Mais un tir droit au but... Sceptique, il reprit son gobelet, but une gorgée. Cela dit, déterminer le trajet d'une balle dans le cerveau n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Pourquoi ? Eh bien, après le trauma, l'augmentation de la pression intracrânienne referme le trajet ouvert par la balle dans le cerveau. Donc on voit d'où la balle est partie, l'orifice d'entrée... et où elle s'est arrêtée, mais il est possible qu'elle ait fait des ricochets entre les deux. « Je dirais pas probable, » dit-il sans vouloir s'engager, « mais possible. » « Vous voyez souvent des blessures par balle infligées par la victime elle-même ? » lui demanda Didi. « Suffisamment, je pense. » « Comment est celle-là, par comparaison ? » ?»« Un sentiment, peu importe si ce n'est pas scientifique, nous sommes entre nous. » Le médecin noya de nouveau le poisson. « On ne peut pas vraiment dire qu'il y a un archétype. » Si ce n'est qu'il s'agit presque toujours d'un homme. Mais la catégorie d'armes, l'emplacement de la blessure, trop de paramètres pour être affirmatif. Didi fit la grimace. Elle aurait voulu une réponse plus tranchée, mais là encore, elle n'était pas surprise outre mesure. Les médecins ont horreur qu'on les accule à se prononcer. Avez-vous remarqué ses mains ? Non, trop occupé à regarder sa tête. Est-ce qu'il a dit quelque chose, repris connaissance à un moment ou à un autre ? Pas en ma présence. Le médecin, son café entre les mains, semblait prêt à repartir. Il se dirigea vers la sortie de la cafétéria. Ils le suivirent, plus lentement cette fois-ci. Au dernier moment, il se retourna. Mais vous devriez interroger la surveillante pour savoir qui a fait l'admission. Cette personne en saura peut-être davantage. Le médecin disparut dans les escaliers. Ils se mirent en quête de Terry. Il s'avéra que Rebecca Moore, l'infirmière des urgences qui avait procédé à l'admission de Patrick Harrington, effectuait à présent sa deuxième garde d'affilée. Elle s'écarta d'un enfant de 3 ans pris de vomissements pour répondre à leurs questions. Didi eut un mouvement de recul en sentant l'odeur. Phil ne broncha pas. Il avait 4 enfants et disait en plaisantant qu'il travaillait à la criminelle pour échapper aux horreurs qu'il voyait chez lui. « Vous avez admis un blessé par balle dans la soirée, Patrick Harrington, » expliqua Didi. « Nous nous demandions si vous auriez des éléments à nous apporter. »« Plaie par balle à la tête ? C'est notre homme. Les ambulanciers l'ont amené. » J'ai relevé les constances vitales et ensuite j'ai bipé le docteur pour, vu que c'était une plaie céphalique. Il a adressé le patient au docteur Badger pour l'intervention chirurgicale. Le patient était-il conscient à son arrivée ? Non. A-t-il repris connaissance pendant son passage aux urgences ? Non. Oh, attendez, quand on l'a emmené au scanner, il a ouvert les yeux. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a remué les lèvres, comme pour parler. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Demanda vivement Phil. Difficile d'être sûr. On aurait dit garce.